J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas.
Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Cette semaine à l'émission, nous dérogeons de notre règle habituelle d'interviewer des non-poètes en recevant au bout du fil François Dumont. François Dumont est professeur au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Il est aussi poète et essayiste. Il est l'auteur de plusieurs recueils, dont son tout dernier, Battement, qui est publié aux éditions du Norrois en 2017, ainsi que de plusieurs essais, dont Usage de la poésie, publié chez les presses de l'Université Laval en 1993, Le poème en recueil, chez Nota Bene en 2010, et L'ombre du roman, toujours chez Nota Bene, en 2017. Il a tenu des chroniques au quotidien Le Devoir et à la revue Voix et Images. Il travaille actuellement à l'édition des œuvres complètes de Jacques Brault et collabore à un groupe de recherche sur la littérature québécoise contemporaine. Simon et moi l'avons tous deux eu comme professeur d'histoire de la littérature québécoise à l'Université Laval, à quelques années d'intervalle. Il nous tardait donc de discuter avec lui de son imaginaire de la poésie. En studio avec Simon se trouve Vincent Lambert, le poète invité par François Dumont. Comme première question à poser à M. Dumont, il importait pour nous de savoir quelle était sa vision de la poésie.
Pour moi, la poésie, ça désigne davantage un manque, je dirais. À mon avis, c'est l'expression d'un manque que la poésie cherche à, mettons, à identifier, qu'elle ne cherchera pas nécessairement à combler. Et j'aime beaucoup ce que disait Borges là-dessus. Il disait, en parlant de la poésie, que c'était l'imminence d'une révélation qui ne se produit pas. Je trouve ça très juste parce que c'est comme si ça nous mettait près d'une sorte de révélation, mais que donc on est juste au moment où ça pourrait advenir et que ça n'advient pas. Ce qui suppose que le lecteur, la lectrice prend le relais en quelque sorte du poème. Donc c'est pas vraiment une définition, mais disons que c'est pour moi une façon de mettre l'accent sur, non pas sur ce que la poésie apporte, mais sur ce qu'elle montre et qui n'est pas tout à fait là, c'est-à-dire qui est en train d'advenir.
Et la question qui suit, c'est à quoi ça sert?
Ben, moi, je pense que ça sert à voir plus clair, ça sert à être plus présent.
Je comprends, parce que en fait, j'aimerais en arriver à faire le lien entre la poésie et le social.
Par ce lien, on voulait revenir à ce que Jean-Pierre Masse dit lors de la dernière entrevue par rapport aux poètes des années 60.
Il disait que la poésie n'a pas autant d'impact aujourd'hui qu'elle en a déjà eu. Et puis, ce mois-ci, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Et lors de la suspension des droits civiques, on a arrêté près de 500 personnes, dont beaucoup de poètes. Puis je me dis, tiens, si ça se reproduisait aujourd'hui, s'il y avait le même type de suspension des droits, j'ai pas l'impression qu'on arrêterait des poètes aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, la poésie est devenue davantage une spécialité qu'à cette époque-là. Mais il faut dire qu'il n'y a pas seulement la poésie qui est devenue davantage une spécialité, mais on la traite de plus en plus comme une spécialité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans la critique, on parle très rarement de poésie. Quand on en parle, c'est toujours dans un secteur séparé du reste de la littérature. C'est comme si c'était vraiment une sorte de spécialité pointue, disons. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une parole qui s'adresse à tant de gens, à part de soi-même. Donc, si on se remet à l'époque des événements d'octobre, je ne pense pas que la poésie fait peur à grand monde. Peut-être que Godin pouvait faire peur un peu, Miron pouvait faire peur un peu, parce qu'il y avait une sorte d'incitation à l'action politique, oui, chez eux, mais il y avait aussi le fait que leur parole était présente, alors que maintenant, la parole poétique ne l'est pas tellement.
Je ne sais pas si c'est exact, mais il me semble aussi que ce que tu dis est juste, François. Il me semble aussi que à l'époque, les arrestations étaient fondées sur des liens possibles avec certains organes de publication, comme Parti pris, par exemple, auxquels étaient rattachés ces poètes-là. Oui. Et possiblement qu'à ce niveau-là aussi, disons plus sociopolitique, il y avait une... C'est comme ça qu'ils ont établi les liens, à travers certaines revues qu'ils considéraient comme étant des ferments de révolution.
C'est le fait aussi que, quand même, la parole des poètes était davantage une parole publique, davantage une parole présente qu'elle ne l'est présentement.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'époque, la poésie ou au social, en fait? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait ce lien-là qui semblait plus fort à l'époque que maintenant?
Bien, il y avait certainement, il y a quand même des personnes qu'il faut considérer. Je pense que la personne de Gaston Miron, en particulier, avait une importance déterminante. Mais aussi, c'était une période... Tu parlais des événements d'octobre, mais moi, je pense que les événements d'octobre, ça a été une sorte de traumatisme pour beaucoup d'auteurs qui, à partir de ce moment-là, se sont dit, bon, ben là, la situation est trop absurde. Moi, je vais quitter l'univers social. C'est ce qui est arrivé à Jacques Brault en particulier. Donc, Jacques Brault, avant octobre 70, d'ailleurs, il s'intéressait beaucoup à la poésie de Miron. Il parlait d'enjeux sociaux. Il participait à la revue Parti pris, d'ailleurs, dont parlait Vincent à l'instant. Et après octobre, il y a eu comme une rupture, je pense, qu'on n'a peut-être pas assez souligné dans le fait que, pas seulement les poètes, mais les poètes en particulier qui étaient les plus engagés, disons, ont frappé vraiment un mur. Dans les deux sens, d'ailleurs, parce que c'est aussi bien l'action du FLQ que l'action du gouvernement fédéral par ces mesures de guerre qui étaient considérées comme absurdes.
J'aimerais qu'on aborde la question des pronoms. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de prise en charge du collectif ou de la collectivité dans un « nous », tu sais, qui était peut-être plus présent à un moment donné. Et puis après, bon, est-ce qu'on peut qualifier ça? Est-ce qu'on peut analyser ça comme ça? Donc, après le référendum de 80, il y a eu tout le mouvement de la poésie intimiste, là, où on revenait à un univers beaucoup plus intime, plutôt au « je ». Et donc, de l'impact de ces pronoms-là, puis d'une prise en charge d'une parole, en fait.
Sûr que, particulièrement dans les années 60, et je dirais déjà dans les années 50, l'idée selon laquelle il fallait parler au nom de ceux et celles qui n'avaient pas pu s'exprimer ou qui ne pouvaient pas s'exprimer dans le présent, elle était très forte. Ça a été très important dans ce qu'on a appelé la poésie du pays. La poésie du pays, c'était moins dire le pays au sens territoire que de parler au nom des gens qui avaient été privés de parole. À cette époque-là, on considérait beaucoup le passé comme un grand silence, comme si les gens n'avaient pas eu accès à la parole et que là, finalement, quand on avait accès à la parole, ben, on ne pouvait pas la garder pour soi, il fallait aussi parler au nom des autres. Chez Miron, c'est très présent. Chez Godin, dont je parlais tantôt, c'était très présent aussi. Je pense pas que ça le soit beaucoup par la suite. Et c'est peut-être pas 80 le tournant, justement. C'est peut-être plus les années 70, à mon avis, le moment d'un changement de cap à ce propos-là, où la poésie devient plus une poésie du « je ». Et puis, moi, je trouve des fois, de façon plus intéressante, par exemple, chez Michel Beaulieu, une poésie du « tu », où, à ce moment-là, c'est plus une sorte d'ambiguïté entre le dialogue avec soi-même puis le dialogue avec la personne qui est en train de lire le poème. Ce type d'intervention-là, ça me semble peut-être plus proche de ce qu'est la poésie, au fond, que le « nous », qui est une façon de prétendre parler au nom des autres, alors que c'est difficile de savoir ce que les autres ont vraiment envie de dire, besoin de dire, qu'est-ce qu'ils savent vraiment, quelle est leur expérience vraiment. Moi, je trouve qu'il vaut mieux, personnellement, laisser le lecteur ajouter sa parole à la parole du poème plutôt que de parler à sa place. Donc, c'était peut-être dans les années 60... Il y a une sorte de culpabilité de gens qui, tout à coup, pouvaient s'exprimer alors qu'on n'avait pas beaucoup pu le faire auparavant. C'était ça qui expliquait cet élan-là, disons, du nous.
Il y a une phrase qui va dans le même sens de Jean-Christophe Bailly que j'ai ici devant moi, qui vient de son livre « L'élargissement du poème », le chapitre « Un chant est-il encore possible », justement, où il parle de ça, de cet alignement-là qui s'est produit dans les années 60 autour de ce qu'il appelle un récit de fondation. Là, je le cite, « La venue de l'assemblement des hommes autour d'un centre qui les légitimait. Cette fonction du poème impliquant une audience unanime et une forte inclinaison du chant vers le narratif, nous la voyons revenir à différents moments de l'histoire. Chaque fois qu'un poète s'est pensé non comme un point isolé dans un tourbillon, mais comme l'âme d'un mouvement de fondation, entraînant avec lui la communauté linguistique et la langue, le paysage et l'histoire nationale. » Et là, il donne des exemples comme, évidemment, Homer, Dante. On pourrait parler aussi de Mayakovsky au 20e siècle ou de Miron, mais tout le mouvement de décolonisation, on retrouve ça là-dedans. Puis c'est une conjoncture historique assez rare, je pense.
Oui, c'est peut-être un moment particulier, mais moi, je pense aussi que c'est une sorte d'illusion jusqu'à un certain point de dire qu'on peut parler au nom des autres. Et c'était un peu une contradiction avec laquelle, par exemple, les gens de parti pris se débattaient, parce que, par exemple, quand ils disaient qu'il y avait l'idée de réclamer le joual, en même temps, en écrivant de la littérature en joual, ils s'adressaient à des gens qui, eux, ne parlaient pas joual. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans tout ça, de penser trop facilement, je pense, qu'on peut prendre la parole à la place de quelqu'un d'autre.
Et donc, on vous avait demandé de choisir un poète. Vous avez choisi Vincent Lambert. Quelles ont été les motivations qui ont conduit votre choix?
Bien, je dirais que ce que j'aime beaucoup chez Vincent, c'est qu'il est à la fois savant et naïf dans son écriture. C'est-à-dire savant parce qu'il est attentif à ce que les autres poètes écrivent autour de lui, même à ce que les poètes ont écrit avant lui. Il connaît très bien, par exemple, la poésie québécoise du 19e siècle. Il respecte cette poésie-là aussi. Il connaît bien ce qui s'écrit actuellement au Québec. Il respecte ce que les autres écrivent aussi. Et donc, il y a une ouverture chez lui que je trouve vraiment singulière, là, qui est aussi une ouverture, je dirais, aux possibilités que la poésie offre. Et puis, je dirais aussi que dans son écriture, habituellement, il y a une sorte de ferveur ou une sorte d'enthousiasme chez lui que j'aime beaucoup, que je lui envie un peu.
Vincent Lambert est né en 1980 à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. En 2005, il s'est joint au comité de rédaction de la revue Contre-jour, où il a publié quelques essais et préparé des numéros sur la magie et la poésie d'Anne Hébert. Chroniqueur à la revue L'Inconvénient, il a publié les recueils « Paysages récents » au Lézard amoureux en 2005, « La fin des temps par un témoin oculaire » chez l'Hexagone en 2013 et « Mirabilia » au Cartanier en 2019. Son essai « L'âge de l'irréalité, solitude et empaysagement au Canada français 1860-1930 » s'est mérité le prix Victor Barbeau 2019. Il habite Saint-Philémon, un petit village des Appalaches, sur la rive sud de Québec. Vous l'entendrez maintenant interpréter un extrait inédit.
Je m'étais dit, tu manques de contenu pour ton prochain livre. Tu vas te contenter d'un journal en vers d'une année dans la vie de la Terre, un champ de circonstances fondé sur le défilement infini du téléprompteur. Le sous-texte lumineux de l'esprit du temps qu'il fait, rien de compliqué, je m'étais dit. Mais là, comme disait mon ami Simon en regardant geler la photo d'un nouveau-né, c'est un événement, un vrai, mais oui, c'est la rencontre entre le sujet et le contexte. Et le contexte invite la population mondiale à écrire dans les fenêtres du salon que ça va bien aller avec le dessin du spectre continu de la lumière quand elle brille pendant la pluie. C'est la quarantaine depuis hier matin à Saint-Philémon, imaginez-vous, dans un grand pays absent de la moitié des cartes de la province. Dans une boule à neige qui s'ignorait, que personne n'avait viré à l'envers depuis toujours. Étrange comme la vie continue toute seule, même quand le cœur est arrêté, même quand on a perdu la notion éphémère du jour qu'on est. Je lisais un roman et aux trois quarts, une parenthèse s'est ouverte et qui s'étire, et on ne saura pas la fin de l'histoire, la première page d'avant-hier. Ont-elles seulement existé pour vrai? Dans les films apocalyptiques, on ne voit jamais les grandes heures à tuer. C'est une école de temps libre. Au début, ça allait, mais là, je commence à plier. Je perds le pas de la vie réelle, je bourrasse. Je suis sans doute un mauvais dieu pour mon foie. Je mets des X pour me retrouver au même point chaque jour. Ménage, dehors, couche, bonheur, appelle un ami, lire, des ordres doux pour mon salut. Ne sais pas ce que tu dois faire encore un peu, mais termine le jour d'hier, mais commence avec la pensée heureuse de commencer, étirement, patience, n'oublie pas aussi de déboucher les couloirs et petits terriers ensoleillés de l'amour. et pense au calme des locaux abandonnés trop vite. Pense à l'avenir le matin, pas le soir. L'avenir, c'est un père et une mère. C'est ce qui, en nous, ne veut pas être un poids pour les bêtes libres, le bois, les eaux, tout. Tout ce que le dernier des grands singes a repoussé se referme sur lui et lui rentre dedans, il colonise, et c'est épeurant, l'infra-vie, les êtres de l'infimité, leur façon de gérer l'arrière-monde et nos poumons à partir de l'invisible qui nous fait, nous pense, depuis deux siècles, deux préhistoires, deux galaxies, Dieu. Plus leur milieu est hostile et plus les organismes s'entraident à ce qu'on dit. C'est vrai pour les rats, pour les humains, je sais pas. On verra, mais l'envahisseur nous rend fous comme un corps qui ne sert à rien, comme le téléjournal à la distance rend fou et conscient. Paraît que les Américains se préparent en silence à chanter sur leur balcon. Paraît que l'Italie a reçu des masques de la Chine accompagnés d'une ligne d'un vieux poème romain. Nous sommes les vagues du même océan. On a découvert ensuite que le Japon avait envoyé du matériel en Chine avec un vieux poème chinois. Nous avons chacun nos rivières et nos montagnes, mais nous partageons le même soleil et la même lune et le ciel. L'histoire est inventée probablement, mais je la ressens vraie. Sa possibilité, je la ressens comme si c'était toi qui me la racontais. Ô terre, tu peux m'expliquer? Mon œil gauche coule sans arrêt depuis ce matin. Ta pandémie, c'est une idée tordue. La seule façon de nous relier peut-être, nous garder loin les uns des autres, à réfléchir dans nos chambres. Dans une synchronisation de pensée que les arbres doivent bien connaître, enfin vaguement ensemble en même temps, vaguement terrien, avec les mains propres et la tête trouble. Bernard rêve d'une pénétration forcée dans la salle de nouvelles, des feuilles de choux en guise de masque dans la bande de Gaza, les anti-masques obligés de creuser des tombes en Indonésie, 28 virus inconnus dans un glacier de l'Himalaya, les autorités étonnées par la présence de nazis hippies, des pandémies nettoient la terre tous les 100 ans, la boîte de céréales ne se lèvera pas toute seule. L'énumération continue vers les limites de l'esprit humain, là où les enfants enlevés sont miraculeusement endormis dans leur lit. Vers le fin mot, la barrière du vrai. La conspiration du vide et des gens comme nous qui la documentent, c'est écrit dans les brevets rejetés, les partitions originales, dans la saleté des voitures fantômes. Tous les détails parlent la même langue. Qui sait si dans l'ombre on n'attend pas une seconde d'insouciance, une porte fermée pour amplifier le silence et s'injecter en nous, nous connecter à l'ordinateur central, nous dissoudre. C'est la peur de n'être rien qui détruit tout, moi je pense. Tous mes paragraphes m'entraînent vers le fond, vers le plus bref bond de vie. Les écrire m'étourdit et me laisse attendrir à feu doux dans les hautes herbes. Il y a simplement des choses qu'il faut encercler pour les faire apparaître, tout ce qui contient de la noirceur. Les trous à merveille et les bouches à nourrir de l'esprit. Tout ce qu'on adore, même la planète rapetisse et nous coince au cœur et nous le remplit, comme l'étau quotidien qu'on sait, ou une étreinte. Je fais appel au Dieu Maya des bras ouverts. Le temps est venu de la conscience exponentielle. Je touche la milliarde en te touchant toi. Ma tante veut me réveiller avec des vidéos de QAnon. La lumière entre à 4h15 dans l'infirmerie. Monsieur, les membranes nous permettent de rester ouverts. L'épicerie est probablement située dans le rouge de l'arc-en-ciel. Nos cours dérangent le sommeil de bien petits visages. Les parents ne savent plus comment c'était ne pas en avoir. Beaux instruments fatigués de la vie en marche. Ma blonde me sauve d'une main rare avec une odeur de cheveux mouillés qui me ramènera des morts. On s'est faufilé derrière l'église, dans le champ. La neige avait fondu la veille et gelé pendant la nuit. Dur comme un désert de sel, on pouvait courir sans problème. On a monté loin. Nos pas crunchaient dans la cuve atmosphérique. Loin dans le blanc qui nous aveuglait de nulle part. Sans repère à l'horizon pour indiquer qu'on ne marchait pas sur une exoplanète. On s'est laissé revenir en traîneau. Nos mains de chaque côté pour nous diriger dans l'espace. Nos mains brûlaient. On avait l'air heureux, on l'était, enfin presque. À la même vitesse, à la vitesse immobile que va le monde, vu par le grand instant qui n'oublie rien. Mais j'ai encore du mal à dire merci, jamais assez, jamais. Le monde, Personne ne peut voir ça pour la première fois. De toute façon, il n'y a jamais eu de deuxième ou de centième fois, juste une fois et une autre, juste une fois qui s'approche de plus en plus. À la fin, la première fois est là, dans le futur. Mais le futur est ici. J'imagine que tout le monde l'a senti aussi. Vers 7-8 heures, un soir, le futur a commencé. Personne ne sait combien de tours on va durer, mais la courbe du temps va défoncer le plafond dans 10 ans, dans 50 ans, c'est là, c'est maintenant. Vers 7-8 heures, moi, je cherchais une écharpe dans un petit auriculaire. Mon garçon la voyait, pas question d'aller dormir avant de l'enlever. Elle faisait affreusement mal et je ne la trouvais pas, comprenez-vous? Il ne voulait plus rien prendre dans ses mains, il rêvait d'un monde pur et sans toucher. Le regard abandonné la nuit dans une grande surface, éclairé du rouge lointain de la sortie. Des électroménagers, me semble. Et j'ai vu la nuit. C'est une chose que je n'ai pas expérimentée. C'est mon territoire sous les eaux. La peur que quelqu'un sorte du frigidaire. Un voyage de quelques mètres au pays de la fermeture de toute chose. Il finira bien par oublier pourquoi il a mal et s'endormir, ce qu'on appelle grandir. Mais un jour, c'est insubmersible, c'est trop, un jour s'en vient dans les vieilles peaux de la pensée, un jour qui se lève et aussi qui nous lève, un jour qui n'est pas le contraire de la nuit, mais la nuit éclairée. Le soleil même aura quelque chose d'illégal, il arrivera de partout pour nous boire, nous passer dans les micro-sillons, et nous serons encore un peu gris et fripés, et nous mettrons du temps à sortir, nous mettrons du temps à découvrir la porte de la maison. Heureusement, dehors, à un plancher aussi. Dehors nous pouffe au visage, dehors est un dossier mystère, nos corps sont les appareils sans fil du dehors. J'ai longtemps cherché une dépendance qui libère, on va être tout le temps là-dessus. Terrifique adjectif, se dit de la terre et de ses habitants quand ils finissent par se rencontrer. Tout notre avenir et notre joie dépend de notre capacité à faire passer le décor à l'avant-plan et nous derrière. C'est simple. Je suis pour les saisons et contre la violence, le colonialisme, le Boxing Day, la pollution pour l'amour. C'est imprévisible et profond, à mort mon affaire, un poète québécois à l'apogée du capitalisme. Mais le monde appartient à ceux qui ne l'aiment pas, a dit Pushmore. Mais le manque d'amour tue, mais l'amour aussi et les saisons, je suis contre. Et j'échoue. Je cherche ma vraie famille dans mon ordinateur. L'autre soir, à Fox News, Alan Watts a rendu la vie à un pinson. Simone Veil parlait du retour de la paysannerie de l'éveil, un Caesar Warning sur les vidéos des romantiques allemands. La nature est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps, disait l'un d'eux. Tout vient du même vide hanté, tout est compatible. Or, j'ai manqué le début, j'arrive en retard dans la manufacture du vivant. Tout le monde sait déjà quoi faire. Je n'ai pas vraiment d'organisme ou m'abrité, moi, je cherche mes semblables avec une loupe sur le tapis de l'entrée. We are not alone, dit Michel Lalonde, dit l'agent Mulder. C'est drôle comme je n'arrive pas à le détester, le virus, je ne sais pas pourquoi. On va l'un dans l'autre, son être est un peu magique, supra-individuel. Je trouve qu'il fait pitié, son besoin de nous pour vivre, j'imagine. Le tiers du monde libre n'est plus sûr que le virus existe. Le tiers du monde a moins peur du virus que du remède. J'ai rêvé d'une game de baseball sous un ciel en feu devant des spectateurs en carton. « Quand la vie va redevenir normale » est une phrase que je n'ose plus dire, une phrase qui flotte vers la fin, une phrase qui m'hésite. Des ondes jaunes, oranges, rouges, on dirait la carte du Québec, une belle feuille l'automne. Le nord est jaune et la mer est bleue. En descendant un sentier de la montagne du Midi, je songe à la difficulté de frapper une feuille qui tombe avec un bat de baseball. Il y a sans doute un enseignement zen là-dedans, mais j'ai pas de maître zen avec moi. Le maître zen est le ciel blanc derrière la feuille qui tombe et moi le bat de baseball.
J'aimerais revenir sur la lecture du poème, le poème étant comme une espèce de lieu de rencontre, on pourrait dire virtuel, entre un poète et un lecteur. Donc, et qu'est-ce qui différencie ce lieu de rencontre, d'un autre genre littéraire?
Bien, je pense, moi, qu'il y a davantage d'ouverture dans la poésie. Pour moi, un bon poème, c'est un poème qui multiplie les ouvertures, donc qui multiplie les occasions d'intervenir pour le lecteur. Mettons, un roman policier bien ficelé, par opposition, souvent, je trouve qu'il y a moins de ces ouvertures-là pour la personne qui lit, tandis que dans le cas du poème, on est davantage sollicité jusqu'à un certain point, on est davantage poussé à intervenir par son interprétation, par son investissement, disons, comme lecteur. Pour moi, c'est ça qui fait la différence, essentiellement, entre la poésie et les autres genres littéraires.
Moi, j'ajouterais peut-être une image à ce que François dit. Quand j'essaie de définir ce que fait le poème, pour moi, c'est un peu comme si on avait un grand mur blanc et puis qu'on voyait au centre un ensemble de mots écrits là. Donc, pour moi, la poésie, c'est quand on parle d'une révélation qui est reportée, c'est de s'avancer vers ces mots-là qui par l'espace qui les entoure, sont désignés, tu sais, par un... Il y a une certaine, c'est comme si la poésie s'auto-désignait comme une parole, disons, centrale. Donc, on peut jouer avec ça, on peut s'approcher puis voir que finalement, ces mots-là, c'est pas grand-chose, c'est comme une blague. Mais il y a cet horizon d'attente-là derrière la poésie qui en fait une parole, disons, essentielle, avec laquelle, évidemment, on peut s'écarter, on peut vouloir rompre avec ça, mais il n'en demeure pas moins que derrière la poésie, il y a ce fond-là. Oui, et puis qui est un fond de silence, qui est un fond archaïque, qui fait de la poésie un grand genre aussi. Ce fond-là est toujours là, il me semble. Et à l'autre pôle, il y a l'expérimentation, il y a les possibilités d'assemblage de ces mots-là dans le grand espace. Et puis c'est cette rencontre-là entre le silence et ce petit ensemble de mots-là qui crée l'effet poétique, il me semble.
Oui, ça me semble très juste. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur le titre de votre émission. La haine de la poésie, parce que il me semble, moi, qu'il y a davantage une indifférence, disons. Parfois, c'est vrai qu'il y a une indifférence qui peut être teintée de mépris ou alors qui est simplement une sorte d'ignorance. Il me semble bien davantage qu'une haine à l'égard de la poésie, parce que moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que cette haine-là à l'égard de la poésie, elle est bien davantage présente chez les poètes eux-mêmes. C'est une façon pour la poésie, de lutter contre elle-même jusqu'à un certain point. Et moi, je trouve que c'est un aspect très important dans la poésie qu'on ne prend pas souvent en considération, comme si la poésie se célébrait elle-même. Mais moi, je trouve qu'au fond de la poésie, il y a très souvent ça, cette tension-là, qui fait que les critiques les plus féroces de poésie, ben ça va être, mettons, Rimbaud, ça va être tous ceux qui ont suivi, qui ont remis en question la poésie pour essayer d'en faire une sorte d'adversaire dynamique. Et on le voit beaucoup, je trouve, chez les poètes, les jeunes poètes contemporains, mettons, qui s'opposent à la poésie propre, c'était poème ça, il n'y a pas si longtemps, l'opposition à un certain type de lyrisme, par exemple, qui est très présente chez plusieurs poètes, l'opposition au ton philosophique ou aux prétentions philosophiques. Donc, il me semble que, d'une part, dans l'espace public, il me semble que c'est plus de l'indifférence que de la haine, puis d'autre part, cette haine-là, il me semble que c'est dans la poésie elle-même qu'on la trouve le plus. Mais c'est quand même assez frappant que des lecteurs de poésie qui ne sont pas poètes eux-mêmes, moi, j'en connais pas beaucoup, là, mais en général, ce sont les mêmes personnes qui en publient et qui en lisent ou qui en récitent dans le cadre des récits. C'est comme un peu un monde relativement clos quand même.
Et donc, selon vous, est-ce que malgré le fait que ce monde-là soit clos, est-ce qu'il y a un impact de la poésie, premièrement sur les autres genres littéraires, ensuite sur les autres activités artistiques et sur la société en général, ou c'est complètement, c'est évolué en vase clos là?
Non, je pense qu'il y a certainement un impact, mais pas un impact direct. Pour moi, même la poésie en général, je pense que la poésie peut conduire à davantage de présence, puis davantage de présence peut conduire à l'engagement, donc à l'action, mais c'est pas direct. Mais je pense aussi que, comme c'est le cas pour les autres formes d'art, il y a souvent des œuvres plus exigeantes qu'on connaîtra pas directement, mais qu'on va connaître indirectement par d'autres œuvres, par exemple. Et ça arrive que d'excellents poèmes trouvent leur chemin jusqu'à des lecteurs. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une activité critique plus importante. À mon avis, c'est ce qui nous manque beaucoup actuellement. Il y a très peu de critiques de poésie. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui compte moins, quel sens ça a. Il y a très peu de propositions d'interprétation. Mais c'est frappant de voir qu'il n'y a pas ça autour de nous.
une production de Rhizome qui remercie CKRL, et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.